Alors, ce soir, on va avoir la réunion de prière. On va parler de la prière dans la parole. Et je me suis posé une question pour vous, pour moi. Quelle est, vous pensez, la personne que vous connaissez qui prie le plus ? Drôle de question. Hein ? Vous avez une idée ? Non ? Que vous connaissez ? Qui ? C'est le Seigneur Jésus ? Eh oui. Ah, ça paraît une banalité, mais c'est bien de leur dire. Parce que quand on va parler de la prière, il faut d'abord parler de lui, puisque c'est lui qui prie le plus. Puis heureusement pour nous. Alors, il y a des versets que je citerai, puis certains qu'on lira ensemble, parce qu'il y a pas mal de versets. Alors, dans Ésaïe 53, 12, une des raisons de sa mort, c'est qu'il a intercédé pour les coupables, pour nous. Il a intercédé, il a prié le Père pour les coupables. Et puis, dans Romains 8, au verset 34, Christ intercède pour nous. Chacun de nous ici présents, il prie pour nous. Et je me rends compte que je n'ai pas cette réalité immense, magnifique, que Jésus prie pour moi, tout le temps. Il est au ciel et il prie pour chacun de nous. Quel réconfort! Et dans Hébreux 7, 25, il nous est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est notre avocat. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans 1 Jean 2:1. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il intercède toujours en notre faveur, jamais en condamnation. Bien sûr que quand il nous montre un péché, il veut qu'on le confesse. Mais c'est un peu en préparant ça, j'ai redécouvert cette grâce que nous avons, que le Fils de Dieu, après son sacrifice, sa mort et sa résurrection, au ciel, il intercède toujours pour chacun de nous, notre avocat, toujours en notre faveur, tellement son amour qui a été grand sur la croix continue à être aussi grand dans le ciel. Et c'est pour ça qu'en parlant de la prière, évidemment, c'est lui qui prie le plus pour nous, c'est lui. Et sa fonction de prière, son intercession auprès du Père est toujours, elle est constante. Quel réconfort de savoir que quoi que nous avons, par où nous passions, nous pouvons aller vers lui pour être sauvés de nos détresses, sauvés de nos angoisses, sauvés, soutenus dans nos épreuves, parce qu'il est toujours vivant pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui et pour intercéder en notre faveur. Alors dans ce sujet, ça c'est sa position au ciel. Mais pendant son séjour sur la terre, eh bien, le Seigneur Jésus était d'abord un homme de prière. D'abord un homme de prière. Avant d'effectuer les guérisons que nous connaissons, que nous lisons dans la parole, les miracles auprès de ceux qui souffraient de divers maux, qu'ils soient physiques ou au contraire, de délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, c'était un homme de prière. Il ne faisait rien sans la prière. On a beaucoup, beaucoup d'exemples. On va en prendre quelques-uns que je vais lire. Dans Matthieu 14, 23, il nous est dit, « Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. » Il était seul pour prier pour ceux qui étaient autour de lui, pour connaître la volonté du Père. Sa mission première, avant de revenir ensuite pour ses interventions, c'était d'abord la prière à l'écart, seul. Et dans Marc, au chapitre 1er, au verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il était encore seul. » Tellement cette fonction pour lui de la prière à son Père en notre faveur pendant son ministère terrestre était la plus importante. Tout ce qu'il faisait après dépendait de sa vie de prière. Et pourtant, il était le Fils de Dieu. Mais il était l'homme devenu. Et il était celui qui partageait tous nos soucis, qui est passé dans toutes les expériences, puisqu'il nous le dit. Et il était là. Et dans le troisième verset, dans Luc, au chapitre 6, au verset 12, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est ce verset, on le connaît bien, qui nous interpelle le plus. Il y avait tellement de sujets qu'il passa toute la nuit à prier Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas dormi. Pourtant, le sommeil, c'était un homme comme nous. Il n'avait pas plus de facilité de récupération que nous, puisqu'il s'était dit qu'un jour, j'ai dû fatiguer et s'assit. Il n'a pas dormi. Le sommeil, aussi indispensable qu'il soit, n'avait plus d'importance, parce que les sujets de prière qu'il avait apportés à son père étaient tellement capitaux, tellement indispensables pour ceux qui vivaient avec lui à ce moment-là, que le sommeil, il voulait s'en passer. Non pas qu'il pouvait, mais il voulait. Il s'est passé aussi de nourriture et de boisson quand il a été tenté par le diable. D'autres hommes ont fait comme lui. Moïse a fait comme lui et d'autres encore. Mais lui, il était au plus haut point de la prière pour nous. Ça, c'est réconfortant. Et puis, bien sûr, est arrivé le moment terrible de la croix. D'où notre salut éternel. D'où la délivrance de l'enfer et la faveur infinie, inexprimable, que nous passerons l'éternité avec lui, eh bien, devait passer par ce moment de la prière. Et avant d'aller à la croix, et quand il allait à la croix, ce qui a motivé et ce qui a déterminé son action en pensée à ce moment-là, ça a été la prière. Hein, on va lire, alors cette fois on va lire ensemble, on va prendre dans l'évangile de Matthieu. On connaît bien sûr ces passages, mais il est tellement bon de les relire. Matthieu 26, on lira du verset 36 au verset 46. C'est la passion, bien sûr. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec ses disciples dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici le reproche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Quelle intensité dramatique dans ces moments pour lui, où les disciples se sont endormis, ils n'ont pas pu l'accompagner. Cette prière qui est poignante et où il dit à son père, sachant ce qu'il allait souffrir, non seulement physiquement, mais être attaqué par les hordes de l'enfer qui voulaient l'empêcher d'accomplir le sacrifice. « Si c'est possible, Père, éloigne de moi cette coupe. Cet homme avait cette faiblesse, éloigne de moi deux fois. » Et au bout d'un moment, eh bien, il dit ceci, « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et c'est cette volonté, sa prière n'est concentrée que sur une chose, faire la volonté de Dieu. Bien qu'il ait dit deux fois de suite, si c'est possible, éloigne. Mais c'est ça qui va déterminer. Si c'est pas possible, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et comprenant l'enjeu du pardon de nos péchés, de la victoire sur le diable, sur l'enfer pour chacun de nous, il se soumet à la volonté du Père. Et sa prière arrive à la soumission, à la volonté du Père pour le sacrifice suprême. C'est passé par un combat de prière intérieure, par une douleur, par un cri pour dire « Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. » Et les exemples de notre Seigneur, bien sûr, sont les plus importants puisqu'ils vont nous amener nous-mêmes, eh bien, à entrer aussi dans cette vie de prière et Il veut nous entraîner dans cette vie de prière, de dépendance envers lui et envers le Père par le Saint-Esprit, et de chercher quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous, pour moi le premier, dans toutes nos circonstances, dans tous nos choix, dans toutes nos épreuves. Sachant que sur ce chemin étroit, c'est là que nous trouverons la paix, la consolation et la joie, souvent de la souffrance. Et se trouve aussi l'abandon à ce moment-là de notre nature rebelle, marquée par le péché, et l'errance dans des chemins comme des brebis perdues. Comme nous dit Isaïe 53,6, nous sommes tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et c'est seulement dans ce chemin de la prière, en demandant à Dieu qu'il nous montre sa volonté et que nous acceptions de la faire, que Pierre nous dit au chapitre 2, au verset 25, « Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Et tout cela est centré par la vie de prière, par la vie de relation avec lui et avec son Père. Et dans son chemin, il prend soin aussi de nous montrer à nous les différents éléments de notre vie de prière à nous. On a vu la sienne. Alors, on va lire dans Luc 18, on lira les 8 premiers chapitres, Évangile de Luc, chapitre 18. On connaît bien hein, ceci, c'est la persévérance dans la prière. Donc Luc 18, chapitre 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'il ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et bien sûr que le juge unique a cédé parce que ça l'embêtait au bout du compte. Mais cette comparaison, nous qui prions le Seigneur, le Seigneur Jésus nous dit, mais Dieu fera justice, il ne tardera pas à faire justice. Mais est-ce qu'il y aura la foi? Parce que là, le dernier verset, le verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc c'est corroboré au fait d'avoir foi en lui lorsque nous le prions. Et en sachant qu'il ne tardera pas à répondre à nos prières lorsqu'on le lui demande. Que d'exemples qui nous encouragent pour vraiment prendre et continuer à prendre ce chemin de la prière qui est tellement important et dont lui est l'exemple. Et puis maintenant, on va lire dans Matthieu 6, il nous donne en compte une autre direction dans notre vie de prière. On ne peut pas tout prendre, évidemment. On prendra les éléments les plus, disons, les plus fréquents qui nous sont donnés dans la parole et pour notre vie. Matthieu 6, on lira au verset 6. Verset 6 à 8. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Nos moments de prière ne sont pas une occasion banale. Et on retrouve là, quand le Seigneur nous invite au moment de notre prière journalière, ou plusieurs fois même, c'est d'entrer dans notre chambre, de fermer notre porte, et de prier notre Père qui est là dans le lieu secret. Et c'est exactement ce qu'il faisait lui. Il priait seul, à l'écart, ou dans le désert, se levant très tôt. Et il nous donne cet exemple parce que c'est le sien. Alors, comme il est important, cet exemple, pour que ma vie, et j'en ai eu besoin aussi en relisant ce texte, pour que ma vie soit en accord avec ce qu'il me demande, je dois entrer dans ma chambre, quelle que soit la chambre, mais dans le lieu où je suis seul avec lui. Et ça m'a repris. Pas dans un lieu où les pensées vagabondent, et vous savez que pendant nos moments de prière, c'est là que l'ennemi envoie le plus de pensées pour nous en faire dériver, mais garder la pensée claire qu'on est seul avec lui, qu'il entend nos prières et qu'il veut ce moment tous les jours dans notre vie. Et puis, il va nous parler aussi dans le psaume 90, au verset 14, on va le lire également, une autre condition qu'il met. Psaume 90, au verset 14. C'est Moïse qui dit ça. Il nous dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Chaque matin, c'est précis, très précis, que notre journée, le Seigneur veut qu'elle commence avec lui. Et je suis en défaut quelquefois à cet égard, mais il faut plus que j'y sois. Parce que si c'est ce moment-là que le Seigneur veut, c'est ce moment-là qui sera le plus béni. Et il vaut mieux que je mette mon réveil une heure avant. Parce qu'il y aura plus de bénédictions dans l'heure où je ne dormirai pas que dans celle où je dormirai pour ne plus avoir de bénédictions après. C'est quelque chose que nous savons. C'est très précis, en fait, les ordres du Seigneur sur la prière. Et puis, il y en a encore un. On va lire dans le psaume 5, au verset 4, qui nous confirme dans cette affaire-là. Psaume 5, verset 4, où David dit ceci. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Encore une insistance. Mais quelle est belle cette insistance. Parce que si le matin, moi aussi, je sais que le Seigneur va entendre ma voix, que je peux me tourner vers lui et il entend ma voix, et moi je regarde. Je regarde ce qu'il va me dire. Et ça, c'est confirmé aussi, cette façon, dans le premier livre de Samuel, alors on va le prendre aussi, premier livre de Samuel, on lira au chapitre 3. Et vous savez, c'est l'histoire de Samuel qui entend, et puis il dit à Élie, tu m'as appelé, et puis lui il est sourd, et puis il est de toute façon dans un état spirituel assez lamentable, il dit, mais moi je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Et puis Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Alors, l'Éternel au verset 8, on va lire au verset 8 et 9. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » On le connaît bien, ce verset. C'est pas « Écoute-moi, Éternel, car ton serviteur parle. » C'est l'inverse. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Oh, quel bonheur! Nous sommes les serviteurs de pouvoir dire maintenant, dans ce moment de prière, « Parle, Éternel, j'écoute. » Dans ce moment de silence, à l'écart, combien ça a été précisé quelquefois. Et puis enfin, on dira les derniers versets, c'est dans la première de Jean, au chapitre 5, première épître de Jean, on connaît bien sûr tout cela, mais c'est tellement bien de pouvoir nous les remémorer pour qu'ils reprennent de la vie, ces principes. On en a tellement tous besoin. Alors, première de Jean, chapitre 5, et on lit les versets 14-15. Jean 5, 14. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Il y a un cheminement. On va demander quelque chose d'abord selon sa volonté. À ce moment-là, il nous écoute. Ce qui peut sous-entendre que si nous demandons quelque chose qui est contre sa volonté et que nous le sachions, le Seigneur ne nous écoutera pas. Mais, et si nous savons qu'il nous écoute, eh bien, nous possédons à ce moment-là la chose que nous avons demandée, parce que Dieu est bon. Et pour une prière qui est selon sa volonté, il va nous écouter et tout de suite il va donner aussi la réponse à nos prières. Que d'encouragement nous avons à avoir une vie de prière qui soit ainsi conforme à sa volonté. Voilà, c'était quelques rappels sur notre vie de prière, mais j'ai trouvé dans un livre que je lis assez fréquemment, c'est un frère anglais, Et il a dit une chose qui m'a interpellé. Je retrouve la page parce que c'est déjà, j'ai été beaucoup lu. Alors, il dit ceci. Écoutez de toute son âme, c'est le sujet de son affaire, aussi celle-là, sur la prière. Nous espérions que, vous savez, c'est les frères qui partent, là, qu'on est dans Luc 24, et ils disent au Seigneur, nous espérions que, mais avec tout ça, voilà le troisième jour. Alors, tous les faits mis en avant par les disciples étaient exacts, mais les conséquences qu'ils ont tirées étaient fausses. Il va dire ceci, tout ce qui ressemble à la dépression dans le domaine spirituel, si c'est l'abattement, l'accablement me visite, c'est moi qui suis à blâmer, ce n'est pas Dieu ni personne d'autre. Parce que notre dépression spirituelle a deux sources. Ou bien j'ai satisfait la convertise ou je n'ai pas pu le faire. Convoiter, c'est vouloir posséder tout de suite. Et dans le domaine spirituel, la convoitise me pousse à demander une réponse à Dieu au lieu de chercher Dieu lui-même pour qu'il me donne, s'il le veut, la réponse. Ah, évidemment, on connaît un peu tout ce chemin. Comment ai-je imaginé que Dieu allait agir? Et aujourd'hui, dans le présent immédiat, c'est le troisième jour et il ne m'a pas répondu. Je pense donc que j'ai raison d'être découragé et de blâmer Dieu. On connaît tout ça. Hein. Et voici ce qu'il dit. Chaque fois que nous insistons sur le fait que Dieu est celui qui répond vite à la prière, nous faisons fausse route. La prière est l'union avec Dieu et non la mainmise sur l'objet de notre désir. Ça m'a fait sourire ces paroles, mais elles sont tellement vraies dans nos cœurs quand nous avons aussi des moments difficiles. Et voilà ce qu'il dit. Donc, je l'ai lu, pourquoi ? Parce que c'est intéressant de voir comment il a analysé cela. Ça m'a parlé de moi. On prie pour que Dieu nous réponde. Même quand je prie, je veux que Dieu me réponde assez rapidement. J'ai quand même d'autres choses à faire dans la journée. Et puis non, il ne répond pas. Alors on pense qu'il tarde. Mais non, Dieu ne tarde pas. Il veut qu'on s'unisse à lui dans ce moment de prière. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et puis que quand il le voudra, au moment où il le voudra, il répondra, mais ce sera encore bien meilleur. Nous aurons appris la patience. Il va encore nous épater par les façons dont il va répondre à nos prières. On l'a tous vu. Et voilà. Eh bien, c'était quelques encouragements et les règles que le Seigneur nous montre pour la prière que nous allons faire maintenant.